إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، التوحيد أوجب الواجبات وأعظم العبادات، رتب الله سبحانه وتعالى لمن حققه الثواب العظيم والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في نفسه عموما وخصوصا. قال الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي أخلصوا العبادة لله وحده، ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. ثم ذكر ما أعد لعباده المخلصين من الجزاء، فقال عز وجل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة المهتدون إلى الصراط المستقيم. ولما نزلت هذه الآية شط على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. وهو على ثلاثة أنواع: الأول منها ظلم العبد نفسه بالشرك، ظلم العبد نفسه بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الثالث ظلم العبد في نفس أو مال أو عرض، فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ومن سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد. ومن لم يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اشتمل هذا الحديث العظيم عباد الله على أربعة أمور مهمة. الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع قائلها إلا إذا كان عارفا معناها، عاملا بمقتضاها، سالما مما ينافيها. أما من تلفظ بها فقط ولم يعمل بما دلت عليه لم تنفعه. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، فإنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ومشركو زماننا قالوا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشرك العرب. ومن زعم أن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، فليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها. الأمر الثاني عباد الله شهادة أن محمدًا عبده ورسوله. الرسول موصوف في هذا الحديث بصفتين هما: الأولى أنه عبد لله ليس له شيء من خصائص الإلهية، وفي هذا رد على من غلا فيه وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده. الثانية أنه رسول من عند الله أرسله الله إلى جميع الخلق، فالواجب علينا طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الأمر الثالث الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وصف عيسى عليه السلام في هذا الحديث بأربعة أوصاف: أنه عبد الله، وفي هذا رد على النصارى الذين زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأنه رسوله، وفي هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه. وكلمته الثالث: وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله بكلمة كن، أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. والرابع: وروح منه، فعيسى روح من الأرواح التي خلقها الله كسائر الخلق، وإضافة الروح إلى الله إضافة تشريف وتكريم. الأمر الرابع الموجود في هذا الحديث: وأن الجنة حق وأن والنار حق، الإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر، ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر، لأنهما مستقر ونهاية الأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار والنار دار الفجار. وثمرة الشهادة بالأمور الأربعة السابقة التي اشتمل عليها الحديث دخول الجنة على ما كان من العمل. فالموحد في دخول الجنة على أحد أمرين: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخل الجنة من أول وهلة، أو أن يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة. عباد الله، البخاري ومسلم حديث عتبان قال صلى الله عليه وسلم: فإنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يعمل بها لم تنفعه. وقد حرم الله على النار من أتى بها مخلصا من قلبه ومات على ذلك، كما دل عليه حديث عتبان الذي قيد حديث عبادة المطلق بقوله يبتغي بذلك وجه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره: قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك. فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت الأحاديث بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. عباد الله، لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها العلم، أي العلم بمعناها المراد منها وما تنفيه وما تثبته، وهو العلم المنافي للجهل بذلك. الثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه، فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه. الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. الرابع الانقياد لما دلت عليه، قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى لا إله إلا الله، ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله بالإخلاص له. الخامس الإخلاص، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأنه لا يقصد بقولها مطامع الدنيا ولا رياء ولا سمعة. السادس الصدق، وهو أن يقول هذه الكلمة مصدقا بها قلبه السابع المحبة، المحبة لهذه الكلمة ولما تدل عليه ولأهلها العاملين بمقتضاها. وركن كلمة التوحيد النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد وممن حقق لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأتقياء والصالحين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Mes très chers frères, le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, est l'obligation la plus obligatoire parmi les ordres qu'Allah Ta'ala nous a donnés, et l'adoration la plus grandiose et importante parmi celles qui sont légiférées. Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné comme résultat à celui qui a concrétisé le tawhid l'immense récompense, une immense récompense et un cadeau énorme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: Celui qui médite sur les circonstances, sur la situation du monde, trouvera que toute bonne chose se trouvant sur terre a comme origine l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et son adoration et l'obéissance envers lui et son messager. Et il verra aussi que tout le mal qui existe sur terre, toutes les épreuves, discordes, tentations, épreuves, sécheresses, les ennemis qui nous attaquent et autres, il verra que la cause de tout ce mal-là est la contradiction envers le prophète alayhi salatu wassalam et le fait d'appeler à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura eu cette conclusion après avoir fait cette méditation réellement, il trouvera cela même en lui-même, en général et en particulier. Tout ce qui lui arrive comme bien ou comme mal, ce sera en fonction de son tawhid et l'adoration qu'il aura envers Allah et l'obéissance qu'il aura envers le prophète. Et tout ce qu'il aura comme mal, ce sera dans les choses pour lesquelles il n'a pas obéi au prophète alayhi salatu wassalam. Mais frère, Allah ta'ala dit dans le Coran: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont voué exclusivement leur adoration envers Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala seul et n'ont pas mélangé leur tawhid à de l'association. Et le fait de faire revêtir une chose par une autre, ça veut dire la recouvrir, ça veut dire l'entourer de toutes parts, et n'entoure la foi de toutes parts, et ne la recouvre que l'association et la mécréance. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala cite la récompense qu'il a promis à ses serviteurs sincères. Il a dit: Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. À ceux-là, ils auront la sécurité, et certes, ils seront bien guidés. Ils auront la sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà, et ils seront bien guidés sur le droit chemin. Lorsque ce verset fut révélé, les compagnons radiallahu anhum le trouvèrent difficile, le trouvèrent dur à supporter. Ils pensèrent que l'iniquité, l'injustice qui est citée dans le verset faisait référence à l'injustice que n'importe qui d'entre nous fait envers lui-même. À ce moment-là, à partir du moment où quelqu'un se fait du tort à soi-même, il ne sera pas en sécurité et il ne sera pas bien guidé. Il dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui d'entre nous ne se fait pas du tort à lui-même? Il répondit alayhi salatu wassalam: ce n'est pas ce que vous avez compris, ce n'est pas ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que vous avez vu. Ceux qui n'ont pas fait recouvrir leur foi par une injustice, c'est-à-dire par l'association. N'avez-vous pas entendu le Coran dire: certes, l'association est une injustice énorme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence que celui qui ne recouvre pas sa foi par cette injustice qui est l'association, alors il fera partie de ceux qui seront apaisés en sécurité ici-bas et dans l'au-delà, et il fera partie de ceux qu'Allah a bien guidés. Il fera aussi partie de ceux qu'Allah Ta'ala a choisi et élu parmi ses serviteurs, car Allah Ta'ala dit dans le Coran: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. الله تعالى dit ensuite: nous fûmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisi. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Donc même s'ils font du tort à eux-mêmes, Allah تعالى les a choisis. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Et Allah Ta'ala a promis la récompense à trois catégories-là. Et l'injustice qu'on a citée en arabe, al-dhulm, c'est le fait de mettre une chose à une place qui ne nous revient pas. C'est pour cela qu'on a appelé l'association injustice, et que l'associateur, on le considère comme étant injuste, car il a posé l'adoration dans une place qui ne lui revenait pas, et il l'a attribué à quelqu'un qui ne la méritait pas. Et l'association, elle est trois catégories. Premièrement, l'injustice est de trois catégories. Premièrement, celle que le serviteur se fait à lui-même par l'association. Et c'est la pire des trois catégories. Car le verset cité précédemment le cite bien: certes, l'association est un tort, est une injustice immense. Deuxièmement, le tort que le serviteur se fait à lui-même en accomplissant des actes interdits et en désobéissant à Allah Ta'ala. Allah dit dans le Coran, et celui qui fait un mal, ou qui se fait du tort à lui-même, et qui par la suite implore le pardon d'Allah, alors certes, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Troisièmement, l'injustice que le serviteur fait envers quelqu'un d'autre, que ce soit en sa personne, dans ses biens ou dans son honneur. Celui qui se préserve de ces trois types d'injustice, alors il aura la sécurité complète et la guidée complète dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui se préserve de la plus grande des injustices, mais ne se préserve pas des deux autres, alors il aura une sécurité et une guidée en conséquence de ce qu'il a accompli comme injustice envers lui-même et envers les autres. Et quant à celui qui ne se préserve pas de la pire de ces injustices-là, alors il n'aura ni sécurité, ni guidée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mes frères, Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah seul, sans aucun associé, et que Mohammed est son serviteur et messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, et ce mot qu'il a lancé sur Maryam est un esprit venant de lui, et que le paradis est la vérité, et que l'enfer est la vérité, Allah le fera rentrer au paradis, quelles que soient les actions qu'il a accomplies. Mes frères, ce hadith contient quatre éléments très importants. Premièrement, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne mérite réellement l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que cette parole-là ne sera profitable à celui qui la prononce et qui l'a dit que s'il connaît son sens, que s'il met en pratique ce qu'elle contient comme ordre, que s'il se préserve de ce qui l'annule. Quant à celui qui la prononce seulement avec sa bouche, sans la mettre en pratique, sachez qu'elle ne lui sera en rien utile et profitable. La ilaha illallah ne profite qu'à celui qui connaît son sens et ses indications en affirmation et en négation, qui est convaincu de cela, qui accepte ce qu'elle contient comme sens et qui la met en pratique. Quant à celui qui la prononce sans avoir une science de ce qu'elle a comme sens, sans être convaincu de ce qu'elle contient comme ordre, sans la mettre en pratique, donc comme le fait de nier l'association et de vouer exclusivement la parole et l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala avec celle-là, alors elle ne lui sera en rien utile, et ceci d'après le consensus des savants de l'islam. Au contraire, elle sera un argument contre lui. Sachez que les premiers polythéistes et associateurs ont renié cette parole dans sa forme et dans son sens. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait « Dites la ilaha illallah, vous gagnerez », il répondait « A-t-il fait des dieux un seul qui mérite l'adoration ? Certes, ceci est une chose étrange. » Aujourd'hui, les gens qui associent Allah ta'ala la prononcent, disent « La ilaha illallah ». Donc ils acceptent verbalement, mais ils renient son sens. Tu vois l'un d'entre eux la dire jour et soir et matin, jour et nuit, alors qu'il attribue l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pire que cela, tu les vois vouer exclusivement l'adoration à autre qu'Allah, même dans les moments les plus difficiles, et même dans les épreuves et les catastrophes. Ils sont encore plus ignorants que les associateurs des Arabes d'avant l'islam. Et celui qui prétend qu'il suffit de reconnaître qu'Allah ta'ala est le seul créateur de toutes choses pour être un mouahid, quelqu'un qui a concrétisé le tawhid, alors ce n'est pas ainsi que la vérité. Il ne sera pas réellement un mouahid tant qu'il n'aura pas attesté réellement qu'Allah est le seul à mériter l'adoration seul, et qu'il n'a aucun associé, et qu'il est le seul et unique à mériter l'adoration, et tant qu'il n'aura pas mis en pratique cela. Deuxièmement, le fait que l'attestation de Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Et Allah et le prophète a été cité dans ce hadith par deux attributs. Le premier, c'est que c'est un serviteur, un esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il n'a aucune participation dans quoi que ce soit des particularités de la seigneurie et du droit ultime d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'adoration. Et il y a en cela une réplique à ceux qui ont exagéré dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ceux qui se retournent vers lui pour l'invoquer et pour implorer son secours, et voire même lui attribuer des types de l'adoration qui ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Deuxième caractéristique qui attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est que c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à toute la création, il est donc obligatoire pour nous de lui obéir. Et il y a en cela une réplique à ceux qui ont délaissé son obéissance et qui suivent leur passion. Et le sens de l'attestation que Mohammed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de lui obéir dans les ordres qu'il donne, de lui croire dans ce qu'il nous informe, dans ce qu'il nous donne comme information, de délaisser ce qu'il a interdit et de n'adorer Allah que comme il l'a légiféré. Troisième chose présente dans ce hadith, que Isa ibn Maryam alayhi salam, est l'esclave d'Allah et son messager. Et un mot qu'il a lancé sur Maryam est un esprit de sa part. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Isa dans ce hadith avec quatre attributs. Premièrement, qu'il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a en cela une réplique aux chrétiens qui prétendent qu'il est Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, ou qu'il est le troisième de trois. Qu'Allah soit sanctifié de ce que prétendent les injustes, qu'Allah soit sanctifié de ce que prétendent les injustes. Deuxième caractéristique, que Isa est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il y a en cela une réplique aux juifs qui n'ont pas cru en son message, et qui ont parlé sur son honneur. Troisièmement, qu'il est un mot qu'il a lancé sur Maryam, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé en disant soit, et il a envoyé Jibril alayhi salam vers Maryam, alors pour qu'il insuffle en elle de son esprit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, qu'il a un esprit de sa part, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, c'est-à-dire que Isa alayhi salam est un esprit comme le reste des esprits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, et Allah ta'ala l'a affilié à lui-même dans un but de l'honorer et de montrer son importance par rapport aux autres. Quatrième point prenant dans ce hadith, que le paradis est la vérité et que l'enfer est la vérité, ce qui veut dire que la foi dans le paradis et l'enfer fait partie de la foi en général du jour du jugement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités particulièrement dans cette attestation, car le paradis et l'enfer, l'une de ces deux destinations sera le gîte final et la fin des pieux ou des mauvais. Le paradis est donc la demeure des pieux et l'enfer est la demeure des mauvais. Et les bénéfices, le principal bénéfice de cette attestation qui contient ces quatre éléments que je viens de citer, c'est que tu rentreras au paradis quelles que soient les actions que tu as accomplies. Et sache mon frère que le mouahid, celui qui a appliqué le tawhid, rentre au paradis d'une des deux façons suivantes. Soit il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala et préservé de tous les péchés, alors Allah ta'ala le fera rentrer au paradis du premier coup. Ou bien il rencontre Allah ta'ala en étant mort sur un péché duquel il ne s'est pas repenti, mais qui est inférieur à l'association, alors il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il veut, lui pardonne par sa grâce et le fera rentrer au paradis. S'il veut, le châtie par sa justice et par la suite il le fera rentrer au paradis. Mes frères, Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Utban radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il a été interdit à l'enfer, celui qui dit la ilaha illallah, en recherchant par cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dit la ilaha illallah, mais ne l'applique pas, ne lui sera pas utile. Allah ta'ala, certes, a interdit à l'enfer, celui qui a dit la ilaha illallah, mais à condition qu'il l'ait dit sincèrement de son cœur, et qu'il est mort ainsi, comme le hadith de Utban vient préciser le hadith de Ubadah ibn Samit précédent, qui n'a pas fait référence à ce détail-là. Dans le hadith de Ubadah, il a juste dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui dit la ilaha illallah, sans préciser ce qu'il devait dire avec sincérité ou non. Et le hadith de Utban, il vient préciser que la ilaha illallah doit être dit avec la sincérité, en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est la parole des savants de l'islam comme Ibn Taymiyyah rahimahullah ou d'autres. Celui qui dit la ilaha illallah avec véracité et avec pureté de l'intention et avec certitude et qui meurt ainsi, alors c'est ça la réalité du tawhid. C'est le fait de retirer et de soumettre son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala complètement, de se repentir de tous les péchés, d'un repentir sincère. Et lorsqu'on meurt ainsi, de cette façon, alors on obtient la récompense qui est promise dans le hadith. Et les hadiths sont très nombreux et sont cités de façon notoire et réputée, que sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah et qui avait dans le cœur du bien ce qui est équivalent à un cheveu, ou bien ce qui est équivalent au poil, à un grain de moutarde, ou bien ce qui est équivalent à un grain de maïs.
Les hadiths sont immensément nombreux. Comme quoi celui qui a dit la ilaha illallah et qui rentre en enfer en sortira un jour. Et il y a aussi énormément de hadiths qui nous disent que celui qui dit la ilaha illallah sortira, l'enfer lui sera interdit. Et celui qui dit shahadu la ilaha illallah et que Muhammad Rasoul, qui atteste que Muhammad est son messager, qu'il sache alors que ça ne suffit pas de le dire seulement, mais que cette attestation est liée à ces détails et ces conditions qui sont très lourdes et qui lui donnent son importance et sa valeur. Mes frères, quand on dit la ilaha illallah, ça implique cette condition pour qu'enfin elle soit profitable à celui qui la prononce, et elle ne lui sera profitable que quand ces sept conditions-là seront toutes réunies. Premièrement, la science, le fait de connaître le sens de cette parole-là, et qu'est-ce qui en est voulu, et qu'est-ce qu'il affirme, et qu'est-ce qui l'annule. Et la science, ici, bien, contredit l'ignorance de ce que contient cette parole comme sens. Deuxièmement, la certitude, c'est que celui qui la prétend est sûr de ce qu'elle indique comme sens. Si jamais il a un doute dans ce qu'elle indique comme sens, elle ne lui sera pas utile. Troisièmement, l'acceptation de tout ce que cette parole a impliqué comme sens, et en particulier le fait que l'adoration revient à Allah tabaraka wa ta'ala seul, et le fait de délaisser l'adoration de tout autre que lui. Quatrièmement, la soumission à ce qu'indique cette parole comme sens. Allah ta'ala dit, et celui qui soumet son visage à Allah et est bienfaisant, il aura certes empoigné l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Et le sens de celui qui a soumis son visage, c'est-à-dire qui s'est soumis à Allah ta'ala avec la pureté de l'intention. Cinquièmement, la pureté de l'intention, c'est le fait d'avoir l'action complètement pure de tout ce qui pourrait l'assombrir comme association. Et de n'avoir comme intention, lorsqu'il l'a dit, aucune chose de ce bas monde, ni qu'on l'entende ou qu'on le voit, mais seulement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, la véracité, c'est de dire cette parole-là avec vérité dans son cœur. Septièmement, l'amour de cette parole et de ce qu'elle indique comme sens et de ceux qui la pratiquent réellement et de ce qu'elle contient comme sens. Et sachez enfin, mes frères, que la parole du tawhid, la ilaha illallah, a deux piliers, la négation et l'affirmation. La négation de l'adoration envers tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation de cette adoration seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل التوحيد. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد. اللهم اجعلنا ممن عاش على التوحيد ومات عليه. اللهم احشرنا يا ربنا يوم القيامة في زمرة أهل التوحيد. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين وأعذنا يا ربنا من كل ما يشوب تصفية قلوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم اعصمنا وذرياتنا من أن نعبد الأصنام. اللهم اعصمنا وذرياتنا من أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. اللهم نعوذ بك من السحرة. اللهم إنا نعوذ بك من الكهنة. اللهم إنا نعوذ بك من الشوافين والعرافين يا أكرم الأكرمين. اللهم صفي إيماننا وتوحيدنا يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.